Nom de Jésus, Amen. Et merci pour toutes celles qui s'occupent d'elle et tous ceux aussi. Je suis heureux d'être avec vous ici ce matin et je veux partager tout simplement la parole de Dieu avec vous. Dieu est bon. Ici, j'ai mes clés. Et vous savez, ces clés, vous les voyez telles qu'elles sont là, mais ces clés représentent, on va dire, en quelque part, une partie de ma vie. Parce que ces clés, je les utilise chaque jour, et chaque jour, ces clés m'ouvrent les portes dont j'ai besoin pour faire ce que j'ai à faire. Et je bénis le Seigneur pour ces clés, parce que si jamais je devais les perdre, ce serait bien embêtant, n'est-ce pas? Je bénis le Seigneur pour ces clés. Alors donnez-moi quelques minutes pour retrouver ce qu'il me faut. Voilà. Et ces clés m'ouvrent la porte, m'ouvrent plusieurs portes. Si je n'ai pas ces clés, je ne peux pas prendre ma voiture. Si je n'ai pas ces clés, je ne peux pas ouvrir chez moi. Si je n'ai pas ces clés, je ne peux pas venir ici à l'église. Si je n'ai pas ces clés, il y a un autre, la clé d'un autre local, je ne peux pas les utiliser. Mais imagine que je puisse te prêter ces clés. Je doute que tu puisses véritablement bien les utiliser. Je ne doute que tu puisses faire exactement tout ce que je fais parce que tu ne connais pas l'usage de ces clés et puis sur ces clés, il n'y a pas d'étiquette non plus. Et si je devais te prêter ces clés, d'ailleurs, Laurine parfois prend ces clés, alors elle a les mêmes clés mais en double, mais elle n'arrive pas à se retrouver avec ces clés, n'est-ce pas? En gros, tu peux avoir le trousseau de clés, mais ça peut être très inutile pour toi avant que tu saches t'en servir. Tu peux avoir le trousseau de clés, mais si tu ne connais pas à qui appartiennent les clés, et Laurine me pose des questions et je lui dis comment faire fonctionner ces clés, sinon autrement elle ne pourrait pas y arriver. Donc les clés sont le signe de la capacité, de l'autorité à ouvrir des portes. Et j'aimerais te dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as des clés. J'ai des clés. En tant qu'Église, nous avons des clés pour ouvrir des portes. En tant qu'Église, nous avons des clés pour faire entrer de nouvelles personnes au ciel. Non, quand je dis ça, je ne suis pas en train de divaguer, je ne suis pas non plus en train de rêver. Mais j'aimerais te dire que, Église de Dieu, tu es appelé à faire entrer des personnes au ciel. Tu es appelé à ouvrir la porte du ciel. Mon frère, ma sœur, je suis appelé. Tu es appelé à ouvrir la porte du ciel. Alors j'aimerais t'inviter à lire Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 19. Matthieu chapitre 16. Versets 13 à 19. Vous l'avez ? Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples qui disent les gens au sujet du Fils de l'homme. Qui est-il d'après eux? Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Ils répondirent, pour les uns, c'est Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre leur répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus leur dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, car laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Puis Jésus interdit à ses disciples de dire, qui que ce soit, qu'il était le Messie. Si tu dois retenir une chose de tout ce que je veux partager avec toi autour de ce thème appelé à devenir une porte ouverte vers le ciel, c'est que plus tu comprends qui est Jésus pour toi, plus tu peux te saisir de l'autorité d'ouvrir les portes du ciel. Et c'est comme ça que Jésus lui-même construit et bâtit son Église. Une Église qui est indestructible, une Église qui est imbattable. Et il la construit à travers nous. Voilà ce que je veux partager avec toi aujourd'hui. Dans le texte qu'on vient de lire ensemble, Matthieu chapitre 16, Jésus là est à un tournant particulier de l'histoire de sa vie terrestre, à un moment critique de son ministère. Des gens simples, tout simplement ordinaires, comme vous et moi, l'ont suivi et ont entendu Jésus prêcher l'évangile et ont entendu Jésus faire, ils ont vu Jésus faire des miracles et ils l'ont suivi et ils ont suivi l'enseignement de Jésus. Et imaginez-vous, de village en village, de quartier en quartier, la réputation de Jésus s'est faite. Mais là où ça se complique, c'est que les chefs religieux de l'époque, notamment les pharisiens, eh bien, ils ont entendu parler de Jésus et ça ne leur a pas trop plu comme ça. Ça t'est qu'à déranger, yo. Et parce que Jésus, tout simplement, parlait avec autorité et Jésus va dénoncer leur hypocrisie. Et puis, d'ailleurs, ils ont juste trappé Bab. Et puis, parce qu'ils l'ont accusé, tout simplement, de faire des miracles par la puissance de Belzébuth. On le retrouve dans quelques passages avant. Vous savez, dans Matthieu chapitre 16, il a un tournant de sa vie, Jésus, et il sait que la fin est proche. Et il sait que sa vie va s'achever. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens simples qui l'ont suivi. Mais ces gens l'ont suivi, mais en réalité, ils ne savent pas vraiment qui est Jésus. Et ça qui est embêtant, c'est qu'ils ont aimé Jésus. Et puis, ils ont aimé qui a péché. Ils ont aimé qui a fait miracle. Ils ont aimé parce qu'il a parlé bien. Mais ils n'ont pas qu'à adorer. Alors, Jésus, comme je dis, il a un tournant. Et alors qu'il était orienté pour, déployer tout ce que le Seigneur lui a permis de faire, il va se réorienter là sur les gens qui sont les plus proches de lui, ses disciples. Alors que l'opposition est en train de grandir contre lui, il a besoin de prendre un temps avec ses disciples. C'est, vous regardez ici, le premier verset, le verset 13, il est dit qu'il va à Césarée de Philippe. Il quitte la Palestine, il quitte Israël et il va se mettre à Césarée de Philippe, une ville païenne, une ville idolâtre. Il apprend discipline et il va au nord d'Israël. Et Jésus décide là, avant qu'il soit trop tard, de faire un point avec ses disciples. Et Jésus, à cette période-là, va créer un nouveau concept, j'appelle ça comme ça. Jésus, à cette période-là, va lancer une nouvelle idée qui va bouleverser le monde. Jésus, ici, dans Matthieu chapitre 16, va créer une nouvelle association. Ne me demandez pas si c'est 1901, 1905 ou quoi que ce soit, mais il va créer une nouvelle association pour que ce qu'il a commencé puisse s'achever à travers la vie des hommes. Mais avant de pouvoir faire cela, il doit savoir, mais les gens qui sont à côté de lui là, où ils en sont? Les gens qui lui suivent de plus proche, c'est-à-dire ses disciples, où ils en sont? Ces personnes-là ont besoin d'être révélées au monde. Sont-ils vraiment avec lui? Savent-ils qui est vraiment Jésus? Tu es d'accord avec moi que quand tu es à l'école, tu as des examens. Il y a nos chers, je dirais, collégiens qui sont en troisième, qui dans quelques mois auront le DNB, n'est-ce pas? Je vois les yeux se lever de certains ici. Bon, pour d'autres, c'est l'année prochaine, hein, n'est-ce pas? Matthieu 16 est l'examen final des disciples. Et il a posé des questions. Première question, il a essayé de prendre température. Deuxième question, c'est la vraie question qu'il a envie de poser. Est-ce que vous avez vu les deux questions? On peut les voir ensemble au verset 13. Jésus demande aux disciples, mais que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Alors, l'expression « fils de l'homme », c'est la façon dont Jésus choisit de se nommer. Et on voit qu'il y a quelque chose d'assez particulier dans cette expression, parce qu'à la fois, il y a la dimension humaine de Jésus et aussi la dimension divine de Jésus. Et pour ceux qui sont, à Inste, on a vu ça il y a quelques jours, n'est-ce pas? Puisqu'on est en train d'étudier chaque évangile. Bon, une manière de te dire, viens, tu vas apprendre des choses. Donc, Jésus, en gros, bon, il pose la question. Comme souvent dans les évangiles, Jésus pose la question, mais il connaît déjà la réponse. Vous êtes d'accord avec moi? Mais Jésus savait déjà ce qu'on disait de lui, mais Jésus voulait savoir qu'est-ce que les disciples pouvaient en dire. Et je t'invite, même s'il y a la distanciation, à dire à celui qui est à côté de toi, puisqu'il est un peu loin peut-être, « Dis-moi qui est Jésus pour toi et je te dirai qui tu es. » Alors la question c'est, est-ce qu'il s'arrêtait à ce que les gens disaient de Jésus, eux qui étaient les plus proches, ou est-ce qu'ils avaient une conviction personnelle, intime, profonde? En tout cas, ils ont donné les quatre réponses les plus populaires de ce qu'on entendait sur Jésus. Alors oui, certains disent que c'est Jean-Baptiste, une manière de dire, mais c'est comme ça que Hérode le présente, Jean-Baptiste, alors que Hérode lui-même avait tué Jean-Baptiste. D'autres disent que c'est Élie, parce que Élie, c'était assez populaire. Les Juifs pensaient que Élie allait revenir. Et d'autres encore vont dire que c'est Jérémie, parce que c'est l'un des plus grands derniers prophètes. Et puis, certains disent tout simplement que c'est un prophète, parce que c'est un porte-parole de Dieu. Et peut-être qu'ils ont besoin de flatter Jésus, mais pas ça. Mais les deux n'ont pas besoin de flatter Jésus. Pas faire rôle connaître lui ou besoin connaître lui. Alors répète à celui qui est à côté de toi, dis-moi qui est Jésus pour toi et je te dirai qui tu es. Personnellement, vous savez, je suis très prudent sur les rumeurs. Je suis très prudent sur les on-dits. Quand on commence à se baser sur les on-dits, sur les rumeurs, on s'attire des problèmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'aime connaître la chose de façon personnelle. J'aime entendre la personne dont on parle. J'aime voir la situation pour me faire un avis. Pour le coup, comme diraient certains, je suis comme Saint Thomas. J'aime voir, entendre personnellement pour me faire un avis. Parfois, on croit comprendre, mais on ne sait pas grand-chose, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a vu la semaine dernière avec les disciples d'Emmaüs, vous vous rappelez? Alors, vous savez, il y a des gens qui aimaient Jésus, les foules, et qui suivaient Jésus, et peut-être qui avaient un cœur sincère, et qui même peut-être étaient sympathiques avec Jésus, mais ils n'avaient pas tout compris de Jésus. Autrement dit, on peut avoir de bonnes intentions, mais passer à côté. Dis-moi qui est Jésus pour toi, et je te dirai qui tu es. Et c'est ce qu'on voit un petit peu en Martinique, hein, n'est-ce pas? Beaucoup de gens parlent du Seigneur. Beaucoup de gens peuvent dire « si Dieu veut », n'est-ce pas? Mais combien l'adore? Combien l'adore? Ils pensent que Jésus, c'est un homme bon. Ils pensent que Jésus, c'est peut-être un grand homme. Moi, je connais quelqu'un qui dit « ah, le grand maître, ok, d'accord ». Ils pensent peut-être même que « oui, mais c'est bon de prier Jésus et puis on aura quelques bénédictions ». Mais ils ne croient pas que le Fils de Dieu veut transformer leur vie en passant par la conversion et leur permettre de passer de la mort spirituelle à la vie éternelle. Tu sais, connaître un peu Jésus, c'est prendre le risque de se tromper totalement. Connaître un peu Jésus, c'est prendre le risque de se tromper totalement. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas sauvés avec de bonnes opinions sur Jésus. Parce que nous ne sommes pas sauvés parce que Jésus, ah, c'est un bon bouguin. Parce que nous ne sommes pas sauvés parce que nous aimons bien son enseignement. Belle parole. Ce n'est pas suffisant. La vérité sur Jésus, je dois la connaître personnellement. Je dois la vivre personnellement. Je dois la saisir chaque jour. Je dois la comprendre intimement. Je dois l'expérimenter chaque jour. Et je vois la gloire de Dieu dans ma vie chaque jour, même quand c'est compliqué. Autrement, si ce n'est pas ça, je risque de me tromper moi-même. Et c'est pour ça, ici, à Dumaine, nous voulons que chacun ait une vraie relation authentique avec Dieu. Nous voulons que chacun apprenne à méditer la parole de Dieu. Et c'est important, parce que dès là, quoi fait l'année en l'église, on passe à méditer la parole de Dieu. Et ici à Dumaine, nous voulons apprendre aussi à ce que chacun ait une vraie vie de prière, s'engage aussi dans un témoignage fidèle de l'Évangile, apprenne aussi à se connaître et connaître les dons, les capacités que Dieu donne pour développer aussi les attitudes du royaume dans les relations. Dis Amen à ça. Pourquoi elle te dit Amen? Parce que plus tu vas t'engager dans l'Église, plus tu vas te frotter aux autres, et parfois ça pique. Plus tu vas apprendre à développer les qualités, les attitudes du royaume. Amen. Ne reste pas chez toi et dis, je vais grandir. Non, ce n'est pas vrai. Mantiao. Là encore, j'aimerais t'inviter vraiment à t'engager, à participer à l'école de disciples de INSTE. Alors, on continue. Chapitre, verset 15 et verset 16. Jésus pose une autre question. Alors, la première question, c'était pour prendre la température. Et effectivement, les disciples qui sont vraiment carrés, ils ont répondu à la question directe de Jésus. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Mais ce n'est pas ça l'intérêt. Finalement, la question, c'est qui dites-vous que je suis? Et là, c'est une question directe. Oui, vous là, qui m'avez suivi, vous qui m'avez connu depuis le début, qui dites-vous que je suis? Dis-moi qui est Jésus pour toi et je te dirai qui tu es. Et c'est la plus grande question de tout l'univers. C'est une question à laquelle, finalement, chaque homme doit se poser. Et c'est pour ça que j'insiste ce matin. Et quand Pierre va répondre ici, il ne parle pas simplement pour lui-même. Il donnera une réponse aussi pour les autres disciples qui étaient là, présents avec lui. Mais quand Pierre va répondre ici, il va prendre appui certainement sur l'expérience qu'il a vécue avec Jésus pendant les plusieurs mois qu'il a vécu avec Jésus. Il va prendre appui sur ça, prendre appui peut-être sur sa connaissance de la parole. Et il va faire un lien entre ce qu'il connaît de la parole, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, et ce qu'il a vu de Jésus. Et il dira, inspiré par l'Esprit Saint, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce n'est pas une récitation. Là, si je vous pose la question, vous pouvez tous me répondre, tu es le Fils du Dieu vivant. Peut-être parce que je l'ai dit, peut-être parce qu'on a pris ce passage-là ce matin. Hein, d'accord? Mais quand Pierre dit ça, ce n'est pas une récitation. Ça sort du plus profond de ses entrailles et il est en train de proclamer la foi. Et n'oubliez pas, quand il dit cela, il le dit alors que tout le monde contre Jésus. Enfin, beaucoup sont contre Jésus. Et on est dans une période d'opposition. Et il le dit, et ça sort du plus profond de son être. Et il le dit avec... il est le porte-parole pour les autres disciples qui sont là, qui n'ont pas osé répondre avant. Donc Pierre fait ici une confession sans pareil. Et j'aimerais te dire que quand Pierre fait cette confession-là, l'histoire de l'Église est en train de démarrer. L'histoire de l'Église est en train de démarrer. Est-ce que tu en es convaincu? Non, peut-être pas, mais je vais te montrer. Mais avant cela, avant l'histoire de Jésus qui démarre, tout commence par une confession. Et j'aimerais te dire aussi que si tu ne connais pas Jésus personnellement, il t'est impossible d'en faire ton ami. Tu ne peux pas aimer Dieu sans le connaître. On ne peut pas aimer Dieu, dire qu'on aime Dieu sans connaître, sans méditer sa parole. La Bible dit que Dieu se révélait à Samuel pour lui faire connaître sa parole. Et le Seigneur emploie toujours la même méthode aujourd'hui. Si nous ne pouvons pas passer toute une journée dans la parole, mais il faut prendre un espace, il faut prendre un temps, afin que dans la journée, cette parole nous revienne dans le cœur et qu'elle nous fortifie et qu'elle nous équipe. Amen. Des versets, avec des versets peut-être que nous avons mémorisés le matin ou le soir, mais il y a un temps pour cela. Dis-moi qui est Jésus pour toi et je te dirai qui tu es. Quand on regarde l'histoire de David, il est dit clairement qu'il voulait connaître le Seigneur davantage. Il voulait connaître le Seigneur plus que tout. David va utiliser des mots, il va parler de son désir, il va parler de son soupir, il va parler de sa soif, il va parler de sa faim. Et dans le psaume 27, verset 4, il dira « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Alors, je vous parle de David ici, mais Paul dira la même chose d'une autre manière, parce que lui aussi, il avait un amour passionné et rien ne comptait plus à ses yeux que cela, cette communion avec Dieu. Et je reprends un passage que j'ai pris la semaine dernière dans Philippiens 3, le verset 10. Il est dit, « Tout ce que je désire, c'est connaître le Christ, la puissance de sa résurrection. » Philippiens 3, le verset 10. « D'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort. » Tu sais, en réalité, nous sommes aussi proches de Dieu que nous choisissons de l'être. Nous sommes aussi proches de Dieu que nous choisissons de l'être. Dis-moi qui est Jésus pour toi, et je te dirai qui tu es. Alors pourquoi j'insiste autant ce matin? Écoute bien. Parce que la foi inébranlable de l'Église que Jésus bâtit dépend de ta confession, de la confession de chaque chrétien. C'est vrai de Pierre, premièrement. Le passage nous le rappelle ici. Je ne sais pas si tu comprends cela. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Au verset 18, il est dit, « Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » Je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est la première fois dans le Nouveau Testament qu'on nomme le mot « église » ici. Première fois dans le Nouveau Testament. Et c'est Jésus lui-même qui inaugure ce mot « église » en grec « ecclésia ». On le voit une fois dans Matthieu 16 et une fois dans Matthieu 18. Donc ça veut dire que c'est extrêmement important. Alors, les passages, le verset que je suis en train de vous lire, je ne vous cache pas qu'à travers l'histoire de l'Église, ça a créé quelques complications. Complications que l'on voit toujours, mais je vais vous expliquer. Dans certaines parties du christianisme. Parce que ce verset est à l'origine des désaccords avec l'Église catholique qui dit qu'en quelque part, et qui parle ici, qui veut voir ici le rôle du pape. Mais je vais vous expliquer. Mais tout d'abord, revenons à ce passage. Il est dit ici, tu es Pierre, et en grec c'est Petros, qui veut dire caillou, et sur cette pierre, Petra, qui veut dire rocher, je bâtirai mon église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. En fait, ici, Jésus fait un jeu de mots. Et on voit bien que dans ce jeu de mots, il y a quelque chose d'assez particulier. On l'a vu aussi il y a quelques mercredis à Einstein. Il y a quelque chose ici d'un peu particulier. Parce qu'il est en train de dire qu'ici, Pierre serait le fondement de l'Église. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Alors, le problème, c'est que dans d'autres passages du Nouveau Testament, la pierre de fondement de l'Église, c'est qui? C'est Jésus. Notamment dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 7. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. 1 Pierre chapitre 2, le verset 7. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Alors, juste pour vous dire quand même ce que disent les catholiques, l'Église catholique romaine. C'est-à-dire qu'elle interprète ici ce rocher comme pierre étant le premier pape. Et en quelque part, à partir de Pierre, il y a eu une sorte de succession apostolique, c'est-à-dire une succession d'apôtres jusqu'à aujourd'hui. Et donc, le successeur de Pierre serait, vous connaissez son nom, je pense, quand même, le pape François jusqu'à aujourd'hui. Le pape François qui, en quelque part, serait le vicaire, c'est-à-dire le représentant du Christ sur terre avec tous ceux qui sont avec lui, les évêques, et ma grand-mère disait les soupapes. Voilà. Je ne sais pas si c'est théologiquement juste pour les catholiques. Mais ce seraient eux, comme quelqu'un qui dirait, les successeurs directs de Pierre dans la grande église catholique. Mais il faut dire tout de suite que cette lecture-là est arrivée tard dans l'histoire de l'église en réalité. Et puis, les catholiques s'appuient, c'est vrai, sur la Bible, mais pas simplement. Ils s'appuient aussi sur ce qu'on appelle le magistère. Le magistère, c'est un enseignement qui est à côté de la Bible et qui fait autant autorité de la Bible, tout simplement parce que ben, ça a été écrit par le pape qui a l'autorité de Pierre. Vous comprenez quelque chose? Bien sûr, on ne peut pas accepter cet enseignement-là. Mais la question reste et demeure pour nous. La question reste et demeure pour nous. Comment Jésus édifie-t-il son Église? Et le roc dont il est parlé ici, le rocher dont il est parlé ici, de qui s'agit-il? J'aimerais te dire que Jésus va construire l'Église sur ceux qui confessent son nom. Tu es le caillou, Pierre. Tu es Pierre le caillou. Je me rappelle de quelqu'un avec qui je faisais mes études. Son surnom, il s'appelait Pierre, et son surnom, c'était Caillou. Certainement, il avait lu ce texte avec un peu de grec, et son surnom, c'était Caillou. Mais tout ça pour dire quoi? Tu es le caillou, tu es la petite pierre, et sur cette pierre, qui devient un rocher, je bâtirai mon église contre laquelle la mort ne prévaudra point contre elle. C'est-à-dire que tu deviens un rocher. Et Pierre devient un rocher, non pas parce qu'il a des qualités, non pas parce qu'il est mieux. On connaît quand même l'histoire de Pierre. On sait que Pierre, c'était le plus impétueux de tous les disciples. On sait que Pierre, avant même d'avoir pensé, il avait déjà agi. Et on sait qu'il tire avant d'avoir réfléchi à ce qu'il fait. On sait qu'il va sortir du bateau tout de suite parce qu'il veut marcher sur les eaux. On sait qu'il va couper des oreilles aussi. On sait qu'il va vouloir installer des tentes au lieu de tout simplement adorer. On connaît Pierre. Mais par contre, ce qu'il est dit ici, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il a choisi, contre tout ce qu'on pourrait dire, il a choisi de proclamer, de confesser la vérité. Et petite pierre qu'il est, il, comme qui dirait, devient un rocher parce qu'il confesse le nom de Christ. Amen. Est-ce que vous êtes cas suivant? Jésus ici n'utilise pas n'importe quelle parole. Il n'utilise pas non plus n'importe qui pour bâtir son église. Mais il utilise des gens qui croient aux vérités de l'Évangile et à la parole qui s'est faite chair, ils utilisent ceux qui confessent son nom. Alors, c'est Pierre, premièrement. Mais il est parlé de nous aussi, qui sommes l'Église. Quand nous confessons le nom de Christ ensemble, les uns avec les autres, il y a un rocher sur lequel le bâtisseur, le constructeur de l'Église peut poser l'Église. Amen. Tout ça pour te dire que nous avons un rôle important. En tout cas, c'est c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et là, tu peux dire à celui qui est à côté de toi, sois le petit caillou qui parle du gros rocher et rien n'arrêtera l'Église. Soit le petit caillou qui proclame la foi du gros rocher et rien n'arrêtera l'Église. Alors, si tu suis ce que je suis en train de te dire ici, l'Église n'est pas bâtie sur des hommes uniquement. L'Église n'est pas bâtie simplement sur une doctrine, hein, sur une confession de foi. L'Église est bâtie sur des hommes qui confessent le nom de Christ. Amen. Et c'est ça le fondement de l'Église. Il y a le constructeur, il y a le bâtisseur, mais il a besoin de personnes qui confessent son nom. Jésus construit l'Église avec ceux qui confessent son nom. Sur moi, sur toi, sur nous. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Pierre, le chapitre qui est juste à Pierre, après, qu'est-ce que Jésus dira à Pierre ? Arrière de moi ? Mais tout simplement parce que Pierre n'avait pas encore compris que Jésus devait mourir, n'est-ce pas ? Le constructeur, le bâtisseur compte sur toi. Mais il ne compte pas sur toi avec tes faiblesses. Il compte sur toi parce que tu confesses son nom. Alléluia ! Alors, une confession, vous savez, ce sont des mots, c'est vrai. C'est une idée qui s'exprime, d'accord, c'est vrai. Mais l'idée en elle-même, elle devient vide, elle devient sans substance, sans sens, très facilement. Je prends un exemple. Celui qui a découvert l'électricité, savoir Benjamin Franklin, s'il s'était contenté juste de dire, de découvrir l'électricité, vous savez, l'électricité, c'est tellement merveilleux parce qu'en réalité, dans notre cerveau, il y a des courants électriques pour que tout fonctionne. Là, pendant que je vous parle, il y a des courants électriques. N'est-ce pas ? Et peut-être que ça crée chez vous de sorte de conflits cognitifs, mais c'est bon. C'est pour changer de paradigme, c'est pour comprendre progressivement. Bref, je ne veux pas aller plus loin sur ça. Mais tout ça pour vous dire que Benjamin Franklin, quand il a trouvé l'électricité, ah, c'est bien, c'est merveilleux, non. Derrière, il y avait la mise en œuvre de l'électricité. Donc, chaque petite chose que nous avons aujourd'hui, et ça change la vie. Les lumières se sont allumées, n'est-ce pas ? Si on prend la question de la théorie de la relativité trouvée par Einstein, lui aussi, s'était resté là. Bon, malheureusement, c'est pour faire des choses, un cataclysme extraordinaire, c'est-à-dire la bombe atomique, une puissance extraordinaire. Une confession, une idée a besoin d'une mise en œuvre, a besoin de personnes. Et c'est ça l'Église. C'est que nous confessons le nom de Jésus et nous mettons en œuvre. Et la puissance de Dieu est à l'œuvre. Et la Bible dit que l'Église est inébranlable. La Bible dit que l'Église est imbattable. Alléluia. On l'a un peu chanté ce matin. Donc l'Église est bâtie sur des hommes qui ont confessé la plus grande idée qui soit, c'est-à-dire Jésus-Christ, mort et ressuscité. Dis à la personne qui est à côté de toi, sois le petit caillou qui proclame la foi du gros rocher, et rien n'arrêtera l'Église. Alors, je te le répète, l'Église est indestructible, l'Église est imbattable, l'Église continuera dans l'éternité, l'Église se renouvelle sans cesse. Et c'est pourquoi si tu es un membre du corps et que tu es coupé du corps, tu vas dessécher, tu vas mourir, tu ne peux vivre seul. Je ne peux vivre seul. Tu ne peux vivre ta foi seul. Mais quand on y réfléchit, quelle folie de se détacher de l'organisation, la seule organisation humaine qui ne va jamais échouer, l'Église. Si tu te retires de la vie de l'Église, ta vie spirituelle deviendra pauvre et tu finiras par mourir sur toi-même. Quand tu te rends compte que l'Église, cette puissance extraordinaire que Dieu, que Christ veut exprimer se fonde sur des hommes et des femmes comme moi, comme toi, qui sont bien imparfaits, mais qui ont choisi de confesser le nom de Christ comme Pierre l'a fait. Il dit « Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant ». Quand tu te rends compte de ça, tu te rends compte que le Seigneur, en fait, t'a appelé à vivre des expériences extraordinaires avec lui, au sein de l'Église, à t'investir dans la mission de l'Église. Il y a quelques jours, on a donné un sondage. Oui, nous sommes les responsables de l'Église et voilà, le Seigneur met des choses à cœur pour nous. Mais nous sommes tous participants à l'œuvre de Dieu et on a besoin d'entendre les idées de chacun. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire pour son Église? Parce que ceux qui confessent le nom de Christ ensemble, c'est sur eux que Christ bâtit son Église, Christ construit son Église. Le Seigneur nous a appelés à vivre des expériences extraordinaires pour s'investir auprès de ceux qui en ont besoin. Et l'association L'Homme ou Toujours en est un des témoins. Le Seigneur nous appelle au sein de cette Église à connaître des gens que nous n'aurions pas connus normalement si on n'était pas à l'Église. Le Seigneur nous invite à participer à la joie de beaucoup d'autres. Peut-être, c'est vrai, il y a les temps de mariage, il y a les temps de présentation d'enfants, mais nous voulons vivre des guérisons aussi ensemble. Il y en a qui vont, n'est-ce pas, réussir leurs examens. On veut célébrer Dieu parce qu'on croit que Dieu fait toutes choses à merveille. D'autres, peut-être, vont trouver du travail et nous voulons célébrer Dieu ensemble pour ça. D'autres attendent la conversion de leur enfant et nous voulons prier et célébrer Dieu. Nous avons des expériences à vivre ensemble. Et dans l'Église, le Seigneur nous invite à sortir de notre isolement, de notre égoïsme, de notre petite vie personnelle pour participer à quelque chose de beau. Et il y a quelques jours de cela, nous avons pu partager autour de ce qui se passe dans les petits groupes. Je vous avoue qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, on a fait le petit groupe, on va peut-être passer à autre chose et tout. Mais quand on a eu la réunion bilan, j'ai vu les fruits que cela produit dans les uns et dans les autres. Donc au mois de mai, on va reprendre les petits groupes pendant tout le mois de mai. Dans l'Église, le Seigneur veut aussi changer le cours de l'histoire par une prière fervente et collective. D'ailleurs, cette semaine, je propose qu'on puisse prier chaque jour. Alors, l'Église sera ouverte ici de 8h à 9h. J'espère que l'heure vous convient. En tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire pour tous ceux qui sont disponibles. Vous choisissez votre jour et on va prier tout au long de la semaine. Vous recevrez les sujets de prière tout à l'heure. Pour ceux qui ne peuvent pas être sur place, n'hésitez pas à venir voir les anciens. On va s'organiser pour trouver le bon créneau qu'il faut sur Zoom. Mais chaque jour, nous allons prier. Yo quand péchez nous ouais, le soir, nous allons prier le matin. Donc, vous êtes déjà tous inscrits. Amen. Tant pour Zoom que pour le matin ici. Et 8h, 9h, j'espère que c'est la bonne heure pour les uns et pour les autres. Dans l'Église, le Seigneur nous invite à participer à quelque chose de plus grand que nous. Et bientôt, on aura notre Assemblée Générale. Et tous ceux qui nous visitent, qui sont là depuis un bout de temps, vous aurez cette possibilité de devenir membre. Alors certes, il y a une démarche administrative, il y a un témoignage à faire, d'accord. Mais c'est une manière de dire, c'est ma famille spirituelle, je prends ma part, je m'y engage. Le Seigneur nous invite à participer à quelque chose de plus grand que nous au sein de son Église. Quelque chose qui dépasse notre génération. Si nous avons construit un bâtiment, c'est pour nous qu'a construit. Hein? C'est pour les générations qui suivent. Et ce que Dieu veut faire dans cette partie de l'île, ici. Laisser un héritage. Dans l'Église, je peux laisser un héritage à ceux qui suivront. Dans l'Église, je peux apporter la guérison aux perdus, aux malades, aux blessés de la vie. Dans l'Église, je peux vivre des relations riches. Wow! L'Église est ce que Dieu a prévu pour le monde. Et la Bible dit, je construirai mon Église, la mort même ne pourra rien contre elle. Alors, sois le petit caillou qui proclame la foi du gros rocher. Et rien n'arrêtera l'Église. Amen. J'aborde le dernier point avec toi. En début, je t'ai parlé des clés, n'est-ce pas? Sais-tu que Dieu nous a donné le pouvoir d'ouvrir et de fermer les portes du ciel? La dernière petite phrase que j'ai à te donner. N'oublie jamais tes clés et tu ouvriras les portes du ciel. Regardez attentivement ce qu'il est dit au verset 19 ici. Je vous donnerai les clés du royaume des cieux. On l'a vu tout à l'heure. Les clés, c'est une capacité. Les clés, c'est un pouvoir pour ouvrir des portes. Mani la clé de l'autre côté, on peut conduire. Mani la clé, quand même, on peut entrer. Sinon, on peut dormir dehors. Celui qui détient les clés a le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Vous savez, quand j'étais prof au collège, je voyais certains élèves qui avaient leurs clés autour du cou. Je pense que les parents voulaient être sûrs que l'enfant ne perde pas la clé, n'est-ce pas? Dans le Proche-Orient ancien, les rois, ils avaient des palais. Donc, quand je parle du Proche-Orient ancien, je parle du contexte historique de l'Ancien Testament. Et à cette époque-là, il y avait des rois et il y avait, comment dire, dans le palais, des personnes qui étaient nommées. Parce que dans les palais, il y avait des caves et c'est là qu'on mettait l'argent et c'est là qu'on mettait aussi toutes les réserves, les céréales. Et c'était des endroits importants. Et le roi choisissait un serviteur de confiance, et il lui donnait la clé de la réserve. Et le serviteur qui avait la clé, il la portait comme ça, avec une chaîne, une chaîne dorée, peut-être, je ne sais pas, mais avec une chaîne autour du cou. Et c'était évident pour tous ceux qui le voyaient avec cette clé-là, que c'est lui qui avait la possibilité d'ouvrir les trésors du roi. Et normalement, s'il était sérieux, il ne retirait jamais, jamais, jamais la clé autour de son cou. Donc, un signe précisément d'autorité. Et l'homme qui avait les clés, il pouvait, non seulement il pouvait aller et venir, mais c'est à lui que le roi faisait confiance. Et il pouvait voir le roi quand il voulait. Et il pouvait aussi refuser l'entrée à ceux qui voulaient entrer voir le roi. N'oublie jamais tes clés, tu ouvriras la porte du ciel. Avoir les clés ici, pour être très simple, parce qu'on a entendu beaucoup d'interprétations ici. Avoir les clés ici, ça va hein France, hein? Ça va aller. Avoir les clés ici, ça veut dire quoi? C'est tout simplement offrir l'évangile aux autres. C'est ouvrir la porte du salut aux autres. Et chaque fois que tu ouvres, que tu parles de l'évangile à un autre, tu lui ouvres la porte du ciel. Et tu lui ouvres la porte du ciel et ils choisissent de la franchir ou non. Alors il y a de ceux qui vont la franchir, il y a de ceux qui vont peut-être pointer la pointe de leur orteil et puis, et peut-être que quand, sur toute leur vie, ils n'ont pas fait cela, la porte du ciel leur est fermée. Mais c'est à cause d'eux que la porte du ciel est fermée. Mais tu as la capacité d'ouvrir. Et quand les gens franchissent cette porte, ils sont sauvés, ils sont nés de nouveau et ils deviennent des enfants de Dieu. Donc c'est ce que ça veut dire, tout simplement, avoir la porte du ciel. Et j'aimerais bénir Dieu parce que ces derniers mois, avec toute cette histoire de confinement, par la grâce de Dieu, nous voulons penser à Colette et prier pour elle qui a partagé l'évangile avec Denise et a ouvert la porte du ciel pour Denise. Alléluia! Nous voulons penser aussi à Francette et ce que Dieu fait dans sa vie chaque fois que le Seigneur lui permet de partager la parole de Dieu. Et nous pensons à Gérald, quelqu'un que j'ai suivi pendant un bout de temps. Là, il est sur Ducos, il n'est pas dans notre église. Mais je l'ai accompagné, mais c'est tout simplement Francette qui lui a partagé la parole de Dieu. Nous avons les portes du ciel. La clé du ciel. Alléluia. Et nous pouvons ouvrir la porte. La question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Je suis, tu es appelé à devenir une porte vers le ciel. Et plus tu comprends qui est Jésus pour toi, plus tu peux te saisir de cette autorité pour ouvrir les portes du ciel. Et c'est là le secret de l'Église. L'Église devient là, sur ta confession, quelque chose d'indestructible, quelque chose d'imbattable à travers nous. Alors, dis-moi qui tu es. Dis-moi du moins qui est Jésus pour toi. Et je te dirai qui tu es. Peut-être que tu as besoin de t'inscrire à INSEE. Peut-être que tu as besoin de prendre davantage de temps avec le Seigneur. Dis-moi qui est Jésus pour toi. Et je te dirai qui tu es. Sois le petit caillou qui parle, qui proclame la foi du gros rocher. Et rien n'arrêtera l'Église. Participe au petit groupe. Vous êtes en train de créer une équipe indestructible pour l'annonce du Seigneur. Un groupe dans lequel des personnes qui ne connaissent pas encore Dieu vont découvrir qui est le Seigneur. Amen. Et n'oublie jamais tes clés. Tu sors, n'oublie jamais tes clés. Moi, comme j'ai mis toutes mes clés ensemble, si ma casse sortit, moi, je ne peux pas faire rien. N'oublie jamais tes clés et tu ouvriras les portes du ciel. Bientôt, par la grâce de Dieu, nous redescendrons sur le bourg pour pouvoir annoncer la parole dans les stands de prière. Mais chaque fois que tu sors, tu as les portes du ciel et tu peux annoncer la parole. Alléluia. J'aimerais qu'on se lève et qu'on puisse prier. Alléluia. Seigneur, merci à travers ce texte, les vérités que tu nous rappelles, des vérités fondamentales. Seigneur, tu ne nous as pas appelés à être des tristes religieux comme ces pharisiens qui ne cessaient de critiquer Jésus. Tu nous as appelés à la vie. Et Seigneur, nous voulons que de notre être intérieur, il y ait un cri qui sort. Pierre a eu son cri. Pierre a exprimé le cri certainement de ceux qui étaient avec eux, qui n'osaient pas dire qui il était. Ils se sont contentés de dire, répondre à la question de Jésus, qui Jésus était pour beaucoup de personnes. Mais tu veux nous rencontrer personnellement, Seigneur. Et je veux penser à mon frère, ma sœur, qui peut-être pendant trop longtemps a laissé sa foi s'étioler. Dis-moi qui est Jésus pour toi et je te dirai qui tu es. Seigneur, peut-être mon frère, ma sœur, Jésus c'est celui que je rencontre le dimanche parce que j'entends parler de lui. Jésus c'est celui peut-être que pour toi que tu rencontres chaque fois que c'est compliqué, difficile. Mais est-il ton ami au quotidien? Et est-ce que tu mets en ordre les choses pour qu'il soit ton ami au quotidien? Seigneur, je veux te prier pour mon frère, pour ma sœur qui vit ces difficultés, qui a besoin d'apprendre à goûter au pain de vie, qui a besoin d'apprendre à goûter au pain de la parole. Seigneur, ne permets pas qu'il s'en prive. Seigneur, je veux te prier aussi parce que tu nous mets dans une position extraordinaire. De petits cailloux que nous sommes, avec toutes nos faiblesses et souvent nos incohérences, tu nous appelles à ouvrir nos bouches pour confesser ton nom. Et tu fais de ton Église une organisation indestructible. Alors, Seigneur, je comprends une chose. Je ne me suis pas converti, je ne suis pas passé par les eaux du baptême pour rester là, assis sur un banc. Non, je comprends que tu me mets sur une position élevée, Seigneur, pour que je puisse te servir et ouvrir les portes du ciel. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Et quelles que soient les forces physiques, je vais ouvrir ces forces ces portes spirituelles dans la prière, dans l'action, dans l'humanitaire, dans l'écoute, dans le partage, quelle que soit la manière. Alléluia! Et ce n'est pas ces circonstances actuelles qui sont floues, qui invitent au flou, qui invitent au découragement, qui changent la vérité de ta parole. Seigneur, accorde-moi de ne jamais oublier que j'ai les clés en main pour ouvrir les portes du ciel. Accorde-moi de sans cesse ouvrir ma bouche à qui veut l'entendre, et même qui ne veut pas l'entendre, dit l'apôtre Paul, hein, mais que tu es vivant et que tu veux faire ton règne dans chaque cœur ici-bas sur terre. Le ciel veut descendre dans le cœur de chacun. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu accomplis. Je te prie pour mon frère, ma sœur, qui avait besoin d'entendre ces paroles ce matin. Viens et opère cette transformation. Et rends-nous tous actifs pour l'avancement de ton règne ici à Dumaine. C'est là où tu nous as placés. Seigneur, nous voulons recevoir toutes les instructions pour faire ce que tu nous donnes de faire, parce que tu nous as donné les clés du royaume. Louange, honneur et gloire te soient rendus. Au nom de Jésus.